France Musique. Musicopolis.
Berlioz, Rome, 1831.
Berlioz passe en Italie environ 14 mois entre mars 1831 et mai 1832. Un séjour paroxystique. Il est la proie d'un chagrin d'amour passionné. Il se rebelle contre la vie romaine qu'il exècre. Il manque de musique, de littérature, de spectacle. Il se sent tour à tour dévoré de spleen et enflammé par la beauté des paysages, avide de contacts humains et éperdu du désir de solitude. Et pourtant, quelques années plus tard, il écrit « Cruelle mémoire des jours de liberté qui ne sont plus. Liberté de cœur, d'esprit, d'âme, de tout. Liberté de ne pas agir, de ne pas penser même. Liberté d'oublier le temps, de mépriser l'ambition, de rire de la gloire, de ne plus croire à l'amour. » Liberté d'aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, de coucher en plein champ, de vivre de peu, de vaguer sans but, de rêver, de rester gisant, assoupi, des journées entières, au souffle murmurant du tiède sirocco. Liberté vraie, absolue, immense. Ô grande et forte Italie, Italie sauvage, insoucieuse de ta sœur, l'Italie artiste, la belle Juliette au cercueil étendu. Cette liberté décrite par Berlioz, c'est un temps de loisir comme il n'en a pas connu avant et comme il n'en retrouvera plus après. Le prix de Rome, qu'il a obtenu au bout de 5 tentatives, c'est donc qu'il y tenait vraiment, lui donne droit à une pension à condition qu'il passe 2 ans à la Villa Médicis, puis 1 an en Allemagne. C'est une sorte de séjour sabbatique, il est payé pour travailler tranquillement, la seule obligation étant de produire quelques pièces à l'intention de l'Académie et de les faire parvenir à Paris, ce qu'on appelle les envois de Rome. Berlioz a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir ce premier Grand Prix de Rome. Il en connaît les obligations et pourtant, il essaye de toutes ses forces de ne pas y aller. 2 grandes raisons à cela, une personnelle et une professionnelle. D'abord, il est amoureux de la jeune pianiste Camille Mock. Ils se sont engagés, ils ont échangé leurs bagues. Mais la mère de Camille est très réticente à ce mariage. Elle fait tout pour que sa fille épouse un meilleur parti. Hector a bien peur que s'il n'est pas là, Madame Mock en profite pour mettre à exécution des projets contraires. Et 2e raison, il est au début de sa vie professionnelle, il est en contact avec les milieux musicaux et artistiques de la capitale, il commence à être joué. Et pour donner des concerts, essayer de se faire publier, il faut être là. Disparaître du paysage pendant 2 ans, non vraiment, ça n'est pas le moment.
Thank you.
Berlioz demande une dispense pour ne pas aller à Rome. Il se démène comme un beau diable. Il s'adresse au ministre de l'Intérieur. Il produit des lettres de recommandation de grands musiciens et professeurs. Peine perdue, il n'y aura pas de dérogation. Il va devoir se soumettre à la loi commune. Avant de partir, pourtant, il lui reste un projet à réaliser. On entend ici Jean-Louis Barrault qui incarne Berlioz dans le film de Christian Jacques, La Symphonie Fantastique. Un film qui montre les déboires du compositeur et l'incompréhension dont il est victime. Une scène est très parlante justement lorsque trois éditeurs, dont Schlesinger, joué par Jules Berry, examinent le manuscrit de La Fantastique avant de faire entrer Berlioz.
Quel bruit!
Et dire que demain, on trouvera peut-être ça beau!
Admettons que c'est un bon bruit.
Il y a quelque chose, vous savez, là-dedans. Une sorte d'épouvante.
Celle de mes vieux abonnés, vous vous rendez compte de leur réaction?
Peut-être. Mais tout de même, j'ai l'impression que nous vivons une grande minute. Une musique nouvelle vient de naître.
Nous en reparlerons dans 100 ans. Vous allez éditer ça,
vous? Oh, bien sûr que non. Nous n'éditons que la musique posthume. Entrez.
Alors, vous avez lu?
Oui.
Alors?
Une écriture curieuse, pas sans mérite, tout du reste.
Eh bien, j'avoue, moi, que je ne comprends pas.
Oui, enfin, ce sera toujours la même chose, quoi. Mélodie, messe, symphonie, ce sera non. Toujours non.
Calmez-vous, alors.
Est-ce que vous croyez que je vais me laisser assassiner sans protester? Vous êtes tous ligués contre moi. On dirait que vous avez peur, voilà la vérité.
Mais écoutez, mon petit, pensez un peu au public.
Vous ne lui donnez pas la possibilité de se faire une opinion.
Allons, Berlioz. Si je savais que 500 francs puissent vous rendre service...
Merci. Je ne m'en dis pas encore.
Je crains que vous ne soyez toujours très malheureux.
Bon, sûrement. Tant qu'il y aura des Schlesinger.
C'est un illuminé.
Qui viendra peut-être un grand bonhomme.
Peut-être.
Oh, et puis où irions-nous si l'on aidait les jeunes?
Le 5 décembre 1830, Berlioz peut mener à bien son dernier projet avant le départ pour Rome. C'est la première exécution de la symphonie fantastique dans la salle de concert du conservatoire, à l'époque rue Bergère à Paris. François Habneck dirige l'orchestre de la Société des concerts du conservatoire, dont les musiciens prêtent leur concours gracieusement. Globalement, c'est une réussite. Plusieurs morceaux font grande sensation et le public des jeunes artistes comprend et apprécie Berlioz. Pour les critiques, en revanche, ils y sont insensibles et le jeune compositeur leur reproche de tomber toujours à côté de la plaque. Peu importe, le succès est là. Une fois pour toutes, la fantastique est à la musique romantique ce que Hernani de Victor Hugo est au théâtre. Berlioz écrit « Après être allé passer quelques semaines à la Côte-Saint-André, où mes parents, tout fiers de la palme académique que je venais d'obtenir, me firent le meilleur accueil, je m'acheminai vers l'Italie, seul et assez triste. » Berlioz a tout juste 27 ans lorsqu'il part pour l'Italie. On l'a compris, il n'y va pas de gaieté de cœur. Et cet état d'esprit va rejaillir sur toute sa perception de son séjour. Les voyages ne sont pas alors une partie de plaisir, ils sont longs et fatigants. Berlioz part de la Côte-Saint-André le 8 février. C'est le village d'Isère où il est né et où vivent ses parents. Il se rend d'abord à Marseille, presque 300 km en diligence. C'est la première fois qu'il voit la mer, il est séduit. Comme la saison n'est pas propice au passage par les Alpes, il cherche pendant plusieurs jours un bateau qui fasse la traversée du golfe de Gênes. Il rencontre sur la Canebière un groupe de jeunes Italiens qui lui proposent de les accompagner sur un brick sarde. Il est enchanté de son premier voyage sur la Méditerranée, d'autant plus qu'il n'a pas le mal de mer, malgré une tempête épouvantable. Débarqué sain et sauf à Livourne, il poursuit jusqu'à Florence avec ses compagnons. Pendant qu'il est à Florence et qu'il organise son voyage jusqu'à Rome, Berlioz entend dire qu'on joue les Capulet et les Montaigu, le nouvel opéra de Bellini. Il se précipite. Quel désappointement, écrit-il dans ses mémoires. Dans le libretto, il n'y a point de bal chez Capulet, point de Mercutio, point de nourrice babillarde, point d'ermite grave et calme, point de scène au balcon, point de sublime monologue pour Juliette recevant la fiole de l'ermite, point de duo dans la cellule entre Roméo banni et l'ermite désolé, point de Shakespeare, rien, un ouvrage manqué. Le jeune homme va bien plus loin dans une lettre à son père, je cite. Ignoble, ridicule, impuissant, nul. Ce petit sot n'a pas eu peur que l'ombre de Shakespeare ne vînt le fatiguer pendant son sommeil. Il le mériterait bien. Bien sûr, Berlioz n'avait pas entendu Kathleen Battle chanter Juliette. Et puis, il ignorait que le livret n'était pas tiré de la pièce de Shakespeare. Mais bon, quelques jours plus tard, il retourne à l'opéra écouter un ouvrage de Pacini. Cette fois-ci, il part après le premier acte.
Damien, affido a te, difendila per me, e te guaglior sarà, di me, ti parlerà. Damien, affido a te, difendila per me,
e te
guaglior sarà, ti parlerà, ti parlerà.
Ne fait pas bon être français en Italie après la révolution de 1830. Berlioz a toutes les peines du monde à obtenir son visa pour les états pontificaux. Et Horace Vernet, le directeur de la Villa Médicis, doit faire auprès des cardinaux d'énergiques réclamations. Muni enfin de ce précieux sésame, notre Hector prend un voiturin pour la cité papale. Un voiturin, c'est-à-dire une voiture de location avec son conducteur, qui organise aussi le logement et la nourriture. Un jour, raconte Berlioz dans ses mémoires, sur les 10 heures du matin, comme nous venions d'atteindre un petit groupe de maisons appelé La Storta, le vetturino me dit tout à coup d'un air nonchalant, en se versant un verre de vin, « Ecco Roma, signore !» Et sans se retourner, il me montrait du doigt la croix de Saint-Pierre. Ce peu de mots opéra en moi une révolution complète. Je ne saurais exprimer le trouble, le saisissement que me causa l'aspect lointain de la ville éternelle au milieu de cette immense plaine nue et désolée. Tout à mes yeux devint grand, poétique, sublime. L'imposante majesté de la Piazza del Popolo par laquelle on entre dans Rome en venant de France vint encore, quelque temps après, augmenter ma religieuse émotion. J'étais tout rêveur quand les chevaux, dont j'avais cessé de maudire la lenteur, s'arrêtèrent devant un palais de noble et sévère apparence. C'était l'Académie.
Thank you.
Berlioz arrive enfin à Rome vers le 10 mars 1831. Il a passé donc un peu plus d'un mois en voyage. Il est très bien accueilli par les autres pensionnaires de la Villa Médicis. À peine, raconte-t-il, eus-je mis le pied dans la vaste salle où siégeait bruyamment autour d'une table bien garnie une vingtaine de convives, qu'un hourra à faire tomber les vitres, s'il y en avait eu, s'éleva à mon aspect. Il poursuit. Le soir même, après avoir salué M. Vernet, je suivis mes camarades au lieu habituel de leur réunion, le fameux café Gréco. C'est bien la plus détestable taverne qu'on puisse trouver. Sale, obscure et humide, rien ne peut justifier la préférence que lui accordent les artistes de toutes les nations fixés à Rome. Mais son voisinage de la place d'Espagne et du restaurant Lepri, qui est en face, lui amène un nombre considérable de chalands. On y tue le temps à fumer d'exécrables cigares, en buvant du café qui n'est guère meilleur, qu'on vous sert non point sur des tables de marbre comme partout ailleurs, mais sur de petits guéridons de bois, larges comme la calotte d'un chapeau et noirs et gluants comme les murs de cet aimable lieu. Le café Gréco, cependant, est tellement fréquenté par les artistes étrangers que la plupart s'y font adresser leurs lettres et que les nouveaux débarqués n'ont rien de mieux à faire que de s'y rendre pour trouver des compatriotes. Le ton des mémoires de Berlioz est assez enjoué et il raconte avec beaucoup de verve son arrivée à la Villa Médicis. C'est qu'il raconte les faits plus de 10 ans après. Mais dans ses lettres écrites à chaud, le ton est bien différent. À sa sœur Nancy, il se plaint avant tout que personne ne lui écrive, ni les membres de sa famille, ni Camille Mock, sa fiancée. 2 mois sans m'écrire, personne. Il ajoute « Non, plus de larmes, j'en ai versé ma part. » Si les guerres et les révolutions n'étaient pas devenues un tel lieu commun, je m'en mêlerais. Mais il y a quelque chose de mieux. J'ai envie d'aller au mont Posilippe, dans la Calabre ou à l'île de Capri, demander du service à quelque chef de bande, dussé-je n'être qu'un simple brigand. Alors au moins, je verrai des crimes magnifiques, des vols, des assassinats, des raptes et des incendies, au lieu de ces petits crimes honteux, de ces lâches perfidies, de ces timides infidélités qui font mal au cœur. Oui, voilà le monde qui me convient. Un volcan, des rochers, de riches dépouilles amoncelées dans les cavernes, un concert de cris d'horreur accompagné d'un orchestre de pistolets et de carabines, du sang et du lacryma Christi, un lit de lave bercé par les tremblements de terre. Allons donc, voilà la vie.
Thank you.
Songe d'une nuit de sabbat, le dernier mouvement de la symphonie fantastique de Berlioz, Les siècles, dirigé par François-Xavier Roth. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Olivier Dupré pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site, et Béatrice Trichet pour la réalisation.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.